بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا اليوم هو 27 من شهر شوال عام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ندخل في الدرس 22 من كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن كثير رحمه الله. Nous sommes le 23 août 2014. Aujourd'hui, nous entrons, si Allah Azza wa Jalla nous le permet, dans le 22e cours de l'étude de la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tiré du livre Les chapitres dans la vie du messager de l'imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. La semaine dernière, nous nous sommes arrêtés sur la rencontre de Badr, non pas celle que vous tous connaissez, qui est la grande bataille de Badr, mais vous avez vu au début que Badr a eu trois étapes. La première, c'est lorsque un kafir qui s'appelait Kurz, qui ensuite est devenu un sahabi, radiallahu an, est venu à Médine et a volé du bétail. Puis il a pris la fuite. Et les compagnons, radiallahu anhum, l'ont pourchassé jusqu'à Badr. Et ensuite, ils l'ont perdu. La deuxième étape de Badr est la grande bataille de Badr que vous connaissez et dont vous avez entendu certains des détails. Et la troisième étape de Badr, c'est ce qu'on appelle Badr al-Maw'id, le rendez-vous de Badr, qui est la suite de la bataille de Uhud, lorsqu'après celle-ci, Abu Sufyan s'est écrié en disant « On se donne rendez-vous l'année prochaine ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, lorsque lui a dit « Al-Maw'idu al-Aam al-Muqbil fi Badr »« Qalu na'am » Il leur a dit « Le rendez-vous est l'année prochaine à Badr », c'est-à-dire en l'an 4 de l'Hégire, car la bataille de Uhud a eu lieu au mois de Shawwal, un samedi, en l'an 3 de l'Hégire. Le prophète, alayhi salatu wassalam, pour leur montrer qu'il n'est pas vulnérable et qu'il n'est plus faible et qu'il n'a rien à craindre de qui que ce soit, car ils sont croyants en Allah Azza wa Jal, a dit à ses compagnons « Répondez-lui, nous serons au rendez-vous ». Et donc, une année est passée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour répondre à ce rendez-vous et tenir à sa promesse, a réuni quelques-uns de ses compagnons, radiallahu anhum, et s'est dirigé vers Badr afin de combattre les kuffars qui, eux, ont été à la cause de ce rendez-vous. Et vous avez vu que Abu Sufyan a réuni un certain nombre de personnes de Quraysh en direction de Badr. Mais en cours de route, il a décidé de faire demi-tour sous prétexte qu'il y avait la sécheresse et qu'il fallait plutôt attendre une année où la pluie viendra et la verdure poussera. Donc ils ont fait demi-tour. Et lorsqu'ils sont arrivés à Mecca, les habitants de Mecca, qui pour eux ont vu les kuffars de Quraysh partir pour combattre, pour anéantir les musulmans, lorsqu'ils ont vu les kuffars revenir chez eux sans qu'il n'y ait eu de combat, ils leur ont dit « Antum jaysh al-sawiq » Vous êtes l'armée de la farine. Pourquoi ? Parce que comme on l'a dit, quand ils sont allés à Badr, ils ont emmené avec eux de la farine pour cuisiner, pour manger tout au long de leur voyage. Et ils ont voulu par là leur dire « Vous n'avez rien fait d'autre que manger la farine que vous avez emportée. » Donc ils sont revenus. Suite à cette bataille, l'imam Ibn Kathir, rahimallah, ou plutôt suite à cette rencontre, dans laquelle il n'y a pas eu de bataille, قال ابن كثير رحمه الله فصل فخرج صلى الله عليه وسلم إلى دومة الجندل في ربيع الأول من سنة خمس ثم رجع في أثناء الطريق ولم يلقى حربا وكان استعمل على المدينة سباع بن عرفطة رضي الله عنه. ابن كثير رحمه الله تعالى أدي puis au mois de ربيع الأول de la cinquième année de l'Hégire, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lança une expédition qui devait le conduire à Doumatul Jandal. Mais en route, il rebroussa chemin sans avoir rencontré d'ennemis. Il avait avant son départ nommé Siba' ibn Urfuta pour diriger les affaires des Médinois. Dans ce court chapitre, l'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, fait référence à cette expédition dans cet endroit que l'on appelle Doumatul Jandal. Certains parmi les savants ont dit que la cause du nom de cet endroit, Doumatul Jandal, c'est Douma ibn Ismail ibn Ibrahim alayhi salam. Douma, le fils du prophète Ismail alayhi salam, qui lui-même est le fils du prophète Ibrahim alayhi salam. Il est dit que cet endroit porte ce nom car Douma vivait à cet endroit. Wallahu ta'ala a'lam. Et Allah azza wa jalla est plus savant. Quant à la cause de la sortie du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les compagnons vers cet endroit, certains ont dit, parmi les historiens, que les associateurs de cet endroit commençaient à se réunir et avaient pour ambition de venir attaquer les musulmans et les croyants. Car les croyants, à cette époque, sont en train de prendre de la force. Et donc, ils commencent à avoir la suprématie sur terre. Ce qui fait naître dans le cœur de leurs ennemis la crainte que les musulmans ne les attaquent. Ces gens-là, de Doumatul Jandal, se sont réunis et ont prévu d'aller attaquer les croyants. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu cette information, il a ordonné à ses compagnons radiyallahu anhum de se réunir et d'aller les attaquer avant qu'eux-mêmes ne puissent venir. Et certains parmi les historiens ont dit que le prophète alayhi salatu wa sallam est sorti avec 1000 compagnons radiyallahu anhum. Puis il n'y a pas eu de combat, puisqu'en cours de route, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait demi-tour, comme le dit Ibn Kathir rahimahullah, sans qu'il n'y ait de combat. Pourquoi est-ce qu'il a fait demi-tour? Il est dit qu'il a fait demi-tour sallallahu alayhi wa sallam après avoir appris que lorsque les mécréants de cet endroit vers lequel ils allaient pour les combattre ont pris connaissance de la venue des musulmans, ils ont eu peur et se sont éparpillés et ont pris la fuite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu cette information et a dit à ses compagnons de faire demi-tour et de revenir dans la ville de Médine puisqu'il n'y a plus personne à combattre, étant donné qu'ils se sont dispersés et ont pris la fuite. Sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a donc pas eu de combat et cette expédition a eu lieu au cours du mois de Rabi'ul Awwal, en l'an 5 de l'Hégire. En ce qui concerne le compagnon Siba' ibn Urfuta, radiyallahu an, l'imam ibn Kathir, rahimahullah, pardon, l'imam ibn Hajar, dans son livre Al-Isaba fi Tamyiz al-Sahaba, qui est un livre où il traite de la vie ou de la biographie des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parle de Siba' ibn Urfuta, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait de lui le chef des musulmans durant son absence pendant deux expéditions ou deux batailles. La première, c'est celle dont nous venons de parler, et la deuxième, c'est la bataille ou l'expédition de Khaybar, dont vous allez en entendre les détails, inshallah ta'ala. Ceci étant dit, l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, va maintenant passer à une des grandes batailles très connues, qui est la bataille que l'on appelle Ghazwatul Khandaq, la bataille du fossé, ou encore Ghazwatul Ahzab, l'expédition militaire décoalisée. Qala rahimahullah, faslun yashtamilu ala mulakhasi Ghazwatul Khandaq, allati ibtala Allahu fiha ibadahu al-mu'minin wa zalzalahum وثبت الإيمان في قلوب أوليائه وأظهر ما كان يبطنه أهل النفاق وفضحهم وقرعهم ثم أنزل نصره ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وأعز جنده ورد الكفرة بغيظهم ووقى المؤمنين شر كيدهم وذلك بفضله ومنه وحرم عليهم شرعا وقدرا أن يغزوا المؤمنين بعدها بل جعلهم المغلوبين وجعل حزبه هم الغالبين والحمد لله رب العالمين. وكانت في سنة خمس في شوالها على الصحيح من قولي أهل المغازي والسير. ابن كثير رحمه الله تعالى دي شابيت au cours de cette expédition, c'est-à-dire lancée par les polythéistes, la bataille de l'expédition, l'expédition de la tranchée, Allah Azza wa Jal mit à l'épreuve ses serviteurs croyants et les ébranla dans leur foi. Il fit en sorte que les pieux croyants demeurent fermes dans leur foi et dévoila ce que cachaient les hypocrites qu'il démasqua et terrorisa. Puis, il accorda la victoire aux croyants, faisant triompher son serviteur, mettant à lui seul en déroute les coalisés qui repartirent la haine au cœur. Il préserva donc par sa grâce les croyants du mal des tribus arabes qui s'étaient coalisés contre les musulmans. Puis, il décréta qu'aucune expédition ne serait plus jamais lancée contre les croyants après celle-ci. Il fit au contraire en sorte que les mécréants soient dominés et que les croyants prennent le dessus sur eux. Louange donc à Allah, Seigneur des mondes. Cette expédition, selon le plus juste des deux avis émis par les historiens des expéditions militaires, eut lieu au mois de Shawwal de l'an 5 de l'Hégire. Cette immense bataille ou rencontre est connue sous deux noms. Ghazwatul Khandaq, la bataille du tranché, ou encore Ghazwatul Ahzab, la bataille ou bien l'expédition militaire des coalisés. Pourquoi ces deux noms? Quant au premier nom, Ghazwatul Khandaq, l'expédition militaire du fossé ou de la tranchée, ce nom fait référence à ce qui a eu lieu dans celle-ci, dans cette bataille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a creusé un long, profond et large fossé au nord de la ville de Médine. Ceci après avoir été conseillé par Salman al-Farisi radiyallahu anhu. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu que les kuffars de Quraysh se sont alliés avec des tribus juives et avec les tribus de Ratafan, une tribu issue de la région du Najd, ils ont formé 10 000 hommes et sont venus dans le but d'éliminer ou d'éradiquer les musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réfléchi sur la manière de répondre. C'est alors que Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, qui lui venait de Perse, l'Iran actuel, a eu cette idée ingénieuse. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Kunna idha hausirna takhandaqna » Il dit, nous autres, les Perses, lorsque nous étions assiégés par les ennemis, nous creusions une tranchée. C'est-à-dire que quand ils savaient que l'ennemi allait arriver et que ce dernier était fort et armé, ils creusaient autour de leurs habitations et de leurs villes une grande et profonde et large tranchée afin que les ennemis ne puissent pas s'introduire dans la ville. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jugé très bonne et sage cette idée qui venait de Salman et qui n'était pas connue chez les Arabes. Et vous verrez, inshallah, quelle a été la réaction des ennemis lorsqu'ils sont arrivés et ont vu cette tranchée. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a creusé avec ses compagnons radiyallahu anhum ce long fossé au nord de la ville de Médine. Et non pas tout autour de la ville. Pourquoi? Car le nord de la ville de Médine était l'endroit par lequel l'ennemi pouvait rentrer. Il était considéré comme une ouverture pour l'ennemi, étant donné qu'il n'y avait pas beaucoup d'habitations et qu'il n'y avait pas d'obstacles comme des collines, montagnes ou autres. Quant à l'est et à l'ouest de la ville, il y avait deux endroits qu'on appelle Harra, qui sont des endroits où la terre est élevée. Et donc, les mécréants ne peuvent pas s'introduire dans la ville de Médine par ces deux endroits, qui sont à l'est et à l'ouest de Médine, et qui sont appelés Al-Wabra et Waqim. L'endroit qui se trouve à l'est est appelé Waqim, et l'endroit qui se trouve à l'ouest est appelé Al-Wabra. Quant au sud de Médine, il s'y trouvait la tribu des Banu Qurayza. Banu Qurayza étant une tribu juive qui cohabitait à Médine avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à condition de respecter le pacte qu'il y avait entre eux et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les clauses de ce pacte qu'ils ont signé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si l'ennemi cherche à attaquer la ville de Médine, ils ne doivent pas les aider et ils ne doivent pas leur ouvrir la porte. Donc, côté ouest, est et sud, la ville de Médine est protégée. Ainsi, il ne reste que le nord de Médine où il y a un accès dans le cas où un ennemi voudrait s'introduire dans cette ville. C'est dans cet endroit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a creusé ce long, large et grand fossé sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième nom de cette ville, de cette expédition, Ghazwatul Ahzab, l'expédition militaire des coalisés. Pourquoi est-ce que l'on appelle cette expédition ainsi? Car les ennemis d'Allah, tabaraka wa ta'ala, se sont réunis tous dans le but d'attaquer les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'éliminer les musulmans et les croyants. Ils ont donc formé une armée de coalisés où il y avait une alliance entre eux dans le même but. Même si le but de chacun était différent, certains parmi eux avaient pour but de combattre l'islam et les musulmans, d'autres avaient pour but de prendre les richesses se trouvant à Médine. Et chacun a trouvé son compte et ce qu'il cherchait. Ils ont donc formé une armée de 10 000 hommes, qui est l'armée des coalisés. Et vous vous souvenez que la tribu juive qui s'appelle Banu Nadir et qui a été exclue par le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la ville de Médine après avoir trahi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le compagnon du prophète alayhi salatu wa sallam dans une bataille a tué un mécréant qui avait un pacte avec le prophète et qui était sous protection sallallahu alayhi wa sallam, ce compagnon qui l'a tué n'était pas au courant de ce pacte qu'il avait conclu avec le prophète alayhi salatu wa sallam. Il a fallu donc payer le prix du sang. Étant donné que les juifs de Banu Nadir étaient aussi sous un pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils devaient payer une part de ce prix du sang. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé voir les juifs de Banu Nadir et leur a dit: payez une part de ce prix du sang. Oui, ont répondu les juifs de Banu Nadir. Le prophète s'est assis sous un mur et les juifs se sont concertés entre eux. Et ils ont dit: qui parmi vous va ramasser ce rocher et le lancer sur la tête de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour l'éliminer? Donc en prononçant cette parole et en voulant faire cet acte, ils ont trahi le pacte. Mais Allah tabaraka wa ta'ala a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam cette trahison. Le prophète alayhi salatu wa sallam a pris la direction de la ville de Médine immédiatement, a réuni des croyants et est revenu à Banu Nadir. Il les a assiégés et à la fin de l'histoire, ils se sont mis d'accord avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour quitter Médine en deux parties. Certains sont allés au Chem, dans la région du Chem, et d'autres sont allés à Khaybar. Ils n'ont pas avalé cette humiliation. Et ce sont donc eux qui sont à la cause de la bataille des coalisés. Comme vous allez le voir, ils sont allés voir les kuffars de Quraysh, ils sont allés voir les kuffars de Ratafan, et ils les ont incités à se réunir pour former une armée de coalisés afin d'éradiquer les croyants, de les exterminer, de les faire disparaître de la ville de Médine. Donc encore une trahison des juifs, et vous allez voir que même la tribu de Banu Qurayza a trahi le pacte qu'ils avaient conclu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant cette bataille des coalisés ou de la tranchée. Donc voici ce qui est en relation avec les deux noms de cette bataille. Également, Ibn Kathir rahimahullah nous dit que cette bataille a eu lieu au cours de l'an 5 du mois de Shawwal, et que c'est l'avis prépondérant selon les deux avis des savants historiens. Puis vous allez voir qu'il va argumenter pour prouver que cette expédition a bel et bien eu lieu au cours de l'an 5 pendant le mois de Shawwal. Ibn Kathir rahimahullah a dit: au cours de cette expédition lancée par les polythéistes, Allah mit à l'épreuve ses serviteurs croyants et les ébranla dans leur foi. Vous allez en voir les versets, inshallah, qu'on va lire. Il fit en sorte que les pieux croyants demeurent fermes dans leur foi et dévoila ce que cachaient les hypocrites qu'il démasqua et terrorisa. Car pendant cette bataille, les hypocrites ont été dévoilés par Allah tabaraka wa ta'ala. Certains d'entre eux ont inventé un prétexte au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il leur donne la permission de ne pas participer à ce combat ou à cette rencontre. Ils disaient qu'il y avait chez eux des enfants, des épouses qui étaient faibles et qu'il fallait surveiller. Allah subhanahu wa ta'ala les a démasqués et a montré dans le Coran qu'en fait ils étaient menteurs. Puis il accorda la victoire aux croyants, faisant triompher son serviteur, mettant à lui seul en déroute les coalisés qui repartirent la haine au cœur. Pourquoi est-ce qu'Ibn Kathir rahimahullah a dit « wa hazama al-ahzab wahdah » mettant à lui seul les coalisés en déroute? Car il n'y a pas eu de combat, comme vous allez le voir. En réalité, il n'y a pas eu de combat. Mais Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé un vent violent et une armée d'anges qui ont semé la terreur dans le cœur de l'ennemi qui a décidé de retourner sur ses pas, et ainsi il n'y a pas eu de combat, et Allah tabaraka wa ta'ala a jeté la peur dans les cœurs des ennemis. Il préserva donc par sa grâce les croyants du mal des tribus arabes qui s'étaient coalisées contre les musulmans. Puis il décréta qu'aucune expédition ne serait plus jamais lancée contre les croyants après celle-ci. Exactement, Ibn Kathir rahimahullah a dit: wa harrama alayhim shar'an wa qadra an yaghzul mu'minina ba'daha bal ja'alahum al-maghlubin wa ja'ala hizbahum al-ghalibin walhamdulillahi rabbil alamin. C'est-à-dire, Allah Azza wa Jal a interdit aux mécréants après cette expédition des coalisés, il l'a interdit aux mécréants religieusement et en termes de décret divin, il a interdit aux kuffars d'attaquer les musulmans après cette bataille. Quand on dit qu'il a interdit religieusement aux mécréants d'attaquer les croyants, cela fait référence à l'interdiction qu'Allah Azza wa Jal a donnée à quiconque de combattre les croyants. C'est une chose interdite, et sans le moindre doute, c'est une injustice immense et les conséquences en sont lourdes et néfastes pour ceux qui décident de combattre les croyants. Donc religieusement, il est interdit à quiconque de combattre les croyants. Et en termes de décret divin, Allah Azza wa Jal a décrété après l'expédition des coalisés qu'il n'y aurait plus jamais d'attaque venant des Koufars. Et c'est ce qui s'est passé. Après les coalisés, les Koufars n'ont plus jamais été attaqués les musulmans. Donc, les musulmans... Non, ce n'est pas une erreur. Après les coalisés, les Koufars n'ont plus jamais été attaqués les musulmans. Les Koufars n'ont plus jamais été attaqués les musulmans, comme ils l'ont fait au cours de la bataille de Badr. C'est eux qui sont venus attaquer les musulmans. Et à quelle bataille? À la bataille de Uhud et à la bataille des coalisés. Mais après cette bataille, ils ne vont plus jamais venir attaquer les musulmans et ce sont eux qui seront attaqués. L'imam al-Bukhari rahimahullah a rapporté un hadith selon Sulayman ibn Sard ou ibn Surad radiyallahu anhu qui dit Sami'tu Rasulallah, Sami'tu Nabiya sallallahu alayhi wa sallam a yaqul حين أجل الأحزاب عنه الآن نغزوهم ولا يغزوننا نحن نسير إليهم. Al-Bukhari rahimahullah a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, après avoir exclu les coalisés, à partir de maintenant c'est nous qui allons les attaquer et ils ne nous attaqueront plus, nous autres allons cheminer vers eux. C'est-à-dire? Non, il n'y a pas eu trois batailles en tout. Ici, on est en train de parler des batailles où les koufars sont venus pour attaquer les musulmans. Mais il y a eu beaucoup d'autres batailles où ce sont les musulmans qui ont attaqué les koufars. Barakallahu fik. Cette expédition a donc eu lieu au cours de l'an 5 de l'Égir, pendant le mois de Shawwal. Combien de temps après la bataille de Badr, Abdul Ghani? 3 ans après la bataille de Badr. Combien de temps après la bataille de Uhud? 2 ans? 3 ans? 3 ans? Combien de temps après la bataille de Uhud? Quand est-ce qu'a eu lieu la bataille de Uhud? À l'an 3 de l'Égir. Au cours de quel mois? Shawwal. Quel jour? Samedi. Naam. Donc, cette bataille a eu lieu 2 ans après la bataille de Uhud. Combien de temps cette bataille a eu lieu par rapport à la bataille de Badr al-Mou'id? Combien de temps après? Naam. 1 an après. Barakallahu fik. Et donc Ibn Kathir maintenant va argumenter pour montrer que malgré le fait qu'il existe un avis des savants historiens qui dit qu'en fait cette bataille a eu lieu en l'an 4, elle a eu lieu en l'an 5. Ibn Kathir a dit « وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَيْ أَنَّ هَذِهِ الْغَزْوَ حَصَلَتْ في سنة 5 من الهجرة أنه لا خلاف أن أحدا كانت في شوال من سنة 3 وقد تقدم ما ذكره أهل العلم بالمغازي أن أبا سفيان وعدهم العام المقبل بدرا العام المقبل هو العام الرابع وأنه صلى الله عليه وسلم خرج إليهم فأخلفوه لأجل جذب تلك السنة في بلادهم فتأخروا إلى هذا العام. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit, pour argumenter et montrer que cette bataille a eu lieu au cours de l'an 5, pour preuve, le fait que la bataille d'Uhud, les historiens sont unanimes à ce sujet, se déroula au mois de Shawwal de la 3e année de l'Hégire. Or, nous avons indiqué précédemment qu'Abu Sufyan fixa aux musulmans un rendez-vous pour l'année suivante à Badr et que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut au rendez-vous, contrairement aux mécréants empêchés par la disette qui cette année-là sévissa dans leur région. Les polythéistes s'attardèrent donc jusqu'à cette année, la 5e de l'Hégire. Ibn Kathir a dit قال أبو محمد ابن حزم الأندلسي في مغازيه هذا قول أهل المغازي أي أن هذه الغزوة كانت في العام الخامس ثم قال والصحيح الذي لا شك فيه أنها في سنة أربع وهو قول موسى بن عقبة ثم احتج ابن حزم بحديث ابن عمر قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني أراد أن يقاتل مع المسلمين فلم يفتح له النبي صلى الله عليه وسلم الباب وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني قال فصح أنه لم يكن بينهما إلا سنة واحدة فقط هذا احتجاج ابن حزم الذي سيرد عليه ابن كثير رحمه الله تعالى Plus loin, Ibn Kathir dit, dans son ouvrage traitant des expéditions, l'imam Abu Muhammad ibn Hazm al-Andalusi affirme que tel est l'avis des historiens des expéditions militaires. Donc dans son livre, l'imam Ibn Hazm rahimahullah cite que les historiens des expéditions militaires ont cité dans leurs ouvrages que la bataille des coalisés a eu lieu en l'an 5. Il cite cet avis avant d'ajouter « Mais ce qui est correct, et nul doute à ce sujet, est que cette expédition eut lieu en l'an 4. » Tel est d'ailleurs l'avis de Moussa ibn Uqba. Donc maintenant, Ibn Kathir va nous montrer l'argumentation utilisée par l'imam Ibn Hazm pour montrer que cette expédition a eu lieu en l'an 4. Et après citer son argumentation, Ibn Kathir rahimallah va la réfuter. Il dit, Ibn Hazm avança ensuite comme preuve ce récit d'Ibn Umar. Et le récit est connu et il est rapporté par l'imam al-Bukhari. Il dit, je fus présenté au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le jour de la bataille de Uhud, alors que j'avais 14 ans. Il ne me permit pas de participer au combat. Puis, je lui fus présenté lors de l'expédition de la tranchée quand j'avais 15 ans. La vraie traduction, car là il a traduit avec l'avis d'Ibn Kathir, mais la vraie traduction littérale c'est de dire quand j'avais 15 ans. Et cette fois-ci, il m'autorisa à porter les armes. C'est-à-dire qu'Ibn Hazm, rahimahullah, pour montrer que la bataille de Al-Khandaq a eu lieu en l'an. Combien ? En l'an 4 et non pas en l'an 5, il rapporte comme preuve l'histoire où Ibn Umar radiallahu anhuma dit que lorsqu'il avait 14 ans pendant la bataille de Uhud, il est allé demander la permission au prophète sallallahu alayhi wa sallam de participer et de combattre. Le prophète a refusé. Alayhi salatu wa sallam. Il dit, et lorsque est arrivée la bataille de l'expédition de la tranchée, et j'avais 15 ans, le prophète m'a autorisé. Et c'est clair que celui qui lit ce texte va peut-être ou probablement être convaincu que la bataille d'Al-Khandaq, des coalisés, a eu lieu en l'an 4. Car la bataille de Uhud, de laquelle nous parle Ibn Umar, lorsqu'il a demandé la permission qui lui a été refusée, a eu lieu en l'an 3. Il nous dit qu'il avait 14 ans. Puis il nous dit, lors de la bataille de la tranchée, j'avais 15 ans, ce qui fait un an après. Donc la bataille de la tranchée a lieu en l'an 4. Ceci est l'avis et l'argumentation de l'imam Ibn Hazm, rahimahullah. Ibn Kathir a dit, Ibn Hazm en conclut donc que seule une année sépare la bataille de Uhud. Donc ce qui veut dire que cette bataille a eu lieu en l'an 4, la bataille des coalisés. Et maintenant, voici la réfutation d'Ibn Kathir. قال قلت هذا الحديث مخرج في صحيحين أي لا شك في صحته. قال وليس يدل على ما ادعاه لأن مناط إجازة الحرب كانت عنده صلى الله عليه وسلم 15 سنة. فكان لا يجيز من لم يبلغها ومن بلغها أجازه. فلما لم يكن ابن عمر يوم أحد ممن بلغها لم يجزه ولما كان قد بلغها يوم الخندق أجازه وليس ينفي هذا أن يكون قد زاد عليها سنة أو سنتين أو ثلاثا أو أكثر من ذلك فكأنه قال عرضت عليه يوم الخندق وأنا بالغ أي وأنا بلغت الخامس عشر أو من أبناء الحرب. Donc Ibn Kathir dit, néanmoins, ce hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim ne prouve en aucun cas qu'une seule année sépare la bataille d'Uhud de l'expédition de la tranchée. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'autorisait à combattre que les musulmans âgés d'au moins 15 ans, refusant donc tous ceux qui n'avaient pas encore atteint cet âge. Aussi, puisqu'Ibn Umar avait moins de 15 ans le jour de la bataille de Uhud, celle qui a eu lieu au cours de l'an 3, il ne lui permit pas de combattre aux côtés des musulmans. Ensuite, ayant au moment de l'expédition de la tranchée atteint cet âge, l'âge de 15 ans, il l'autorisa à porter les armes, mais cela ne signifie pas qu'il n'avait pas alors dépassé cet âge d'une, de deux, de trois années ou plus encore. C'est comme s'il avait dit « Je lui fus présenté lors de l'expédition de la tranchée alors que j'étais devenu adulte. » Regardez comment répond l'imam Ibn Kathir. Il dit « Certes, le hadith est authentique. Nul doute sur son authenticité. Cependant, Ibn Umar radiallahu anhu n'a pas voulu dire que lorsqu'on lui a donné la permission de combattre pendant la bataille des coalisés, il avait 15 ans. Mais il a voulu dire qu'il avait dépassé la 15e année. Donc il pouvait avoir 16 ans, 17 ans et plus. Il n'a pas voulu délimiter son âge à 15 ans, vous comprenez ? Donc il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne m'a pas accordé l'autorisation lorsque j'avais 14 ans. Et quand j'ai eu 15 ans, à la bataille de la tranchée, il m'a donné l'autorisation. C'est-à-dire qu'à la bataille de la tranchée, j'avais déjà atteint les 15 ans. J'avais déjà dépassé les 15 ans. Donc, il m'a donné la permission de combattre. Ce qui veut dire que la vie plus proche du juste, c'est la vie d'Ibn Kathir, rahimahullah, comme l'a dit le Cheikh Abd al-Razzaq, wafaqahullahu ta'ala, qui est de dire que la bataille de la tranchée a eu lieu au cours de l'an 5 de l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. طيب. وقد قيل إنه كان يوم أحد في أول الرابعة عشرة من عمره ويوم الخندق في آخر الخامسة عشرة وفي هذا نظر والأول أقوى في النظر لمن أمعن وأنصف والله أعلم. Ibn Kathir rahimahullah va citer une argumentation qui vient d'autres savants pour répondre à ce problème. Il dit, d'autres expliquent que le jour de la bataille d'Uhud, il venait d'avoir 14 ans. Ceci est une argumentation différente. Eux disent que lorsqu'il a été refusé de participer au combat, ou lorsqu'il lui a été refusé la participation au combat, il venait juste d'avoir 14 ans. Donc il était au début de la 14e année. Alors qu'au moment de l'expédition de la tranchée, il était proche des 16 ans. C'est-à-dire qu'il était à la fin de ses 15 ans. Ce qui fait combien ? 2 ans. Donc ils disent, il n'y a pas de contradiction. Puisque quand il a été refusé, il venait juste d'avoir 14 ans. Et quand on lui a autorisé, il allait bientôt avoir 16 ans, ce qui fait 2 ans. Mais Ibn Kathir, rahimallah, dit que cet avis est à voir. Il dit néanmoins, cette explication n'est pas convaincante. La première étant plus probante pour celui qui y réfléchit bien et porte un jugement pondéré. Et d'ailleurs, cet avis, celui qui a été jugé bon par Ibn Kathir, rahimahullah, est le même qui a été adopté par Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, dans son livre Zad المعاد قال وكان سبب غزوة الخندق نفرا من يهود بني النضير الذين أجلاهم صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى خيبر كما قدمنا وهم أشرافهم كسلام بن أبي الحقيق وسلام بن مشكم وكنانة بن الربيع وغيرهم خرجوا إلى قريش بمكة فألبوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعدوهم من أنفسهم النصر فأجابوهم ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا لهم أيضا وخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان بن حرب وعلى غطفان عيينة بن حصن كلهم في نحو عشرة آلاف رجل. Ibn Kathir dit, à l'initiative de l'expédition de la tranchée, un groupe de notables de la tribu juive des Banu Nadir, donc comme on l'a dit à l'introduction, qui est la cause de cette expédition et de cette attaque des kofars contre les musulmans, les juifs de Banu Nadir qui ont trahi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui ont voulu le tuer et qui ont été exclus de la ville de Médine. Donc pour se venger, ils sont allés voir les koufars de la Mecque, les koufars de Quraysh. Et d'ailleurs, il est dit que lorsqu'ils sont arrivés aux koufars de Quraysh, ils leur ont dit « Nous allons combattre avec vous, les musulmans. Et nous allons vous aider contre eux. » Car ils savaient que les koufars de Quraysh avaient en eux la rancœur ou la haine contre les musulmans, et qu'ils voulaient depuis longtemps se venger. Puis ils sont allés voir une tribu à Ratafan, dans la région du Najd, où se trouve actuellement la ville de Riyad, en Arabie, Riyad, pour convaincre la tribu des Ratafan d'aller attaquer les musulmans. Et souvenez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé pour combattre et a fait un face-à-face avec les gens de la tribu de Ratafan dans la bataille de Zatul Raqa'. Ils se sont rencontrés. Il n'y a pas eu de combat. Et chacun est reparti chez lui. Mais ils se sont provoqués. Donc les juifs de Banu Nadir sont allés voir ces gens-là qui ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les ont incités à venir avec eux combattre le prophète alayhi salatu wassalam, en utilisant un argument différent de celui utilisé pour convaincre Quraysh. À eux, ils leur ont dit, si vous attaquez, si vous venez avec les coalisés attaquer les croyants à Médine, si vous êtes amenés à les vaincre, on vous donnera la moitié de tout ce qui pousse à Médine. Médine était une ville connue pour sa richesse dans les dattes et les palmiers. Et les gens de Ratafan étaient des gens qui aimaient la dunya. Et les juifs ont utilisé ce qu'ils aimaient. Et c'est ainsi que sont connus ces gens, les juifs, lorsqu'ils veulent convaincre quelqu'un, ils leur donnent ce qu'ils aiment. Et ça, c'est ce qu'on vit à cette époque. Pour endormir les gens, ils leur donnent ce qu'ils aiment et les noient dans ce qu'ils aiment. Et ensuite, ils les amènent où ils veulent. Ils ont fait preuve de cette ruse à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À l'initiative de l'expédition de la tranchée, un groupe de notables de la tribu juive des Banu Nadir qui allèrent à la rencontre des chefs de Quraysh à la Mecque afin de les inciter à faire la guerre au messager d'Allah alayhi salat wa sallam. Banu Nadir cherche à se venger car le prophète les a exclus de Médine. Ratafan cherche la dunya. Ratafan cherche à prendre de la dunya. Et Quraysh en a marre des croyants. Donc chacun à son compte, et ils se sont regroupés pour attaquer les musulmans. Parmi ces juifs qui, comme nous l'avons vu précédemment, s'étaient installés à Khaybar après avoir été bannis de Médine, figurait notamment Salam ibn Abi al-Huqayr, Salam ibn Mishkam et Kinana ibn al-Rabi'a. Trois noms des juifs de cette époque. Les Banu Nadir leur ayant promis leur soutien, Les chefs de Quraysh accueillirent favorablement leur proposition. Puis ce groupe de juifs se rendit dans la tribu de Ratafan, qu'ils excitèrent également à la guerre en utilisant ce que l'on vous a cité. On vous donnera la moitié de Médine, la moitié de tout ce qui pousse à Médine. Ils ont accepté. Cette tribu répondit elle aussi favorablement à leur demande. Quraysh, emmené par Abu Sufyan ibn Harb et Ratafan, sous le commandement de Uyayna ibn Hiss, marchèrent donc sur Médine. Donc ils ont formé les coalisés, comme nous l'avons dit. Marchèrent donc sur Médine. En tout, la coalition était forte de quelques 10 000 hommes. Regardez maintenant, on ne parle plus de 1 000 hommes. Et on ne parle plus de 3 000, 10 000 hommes. Ils ont tous le même but, exterminer les musulmans, les faire disparaître. Subhanallah. Ils en ont marre des musulmans. Ils en ont marre des croyants. Et regardez, chers frères, dans tout ce que vous venez de lire depuis le début de la sira, depuis le début de la biographie, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons ont fait ne serait-ce qu'une once d'injustice envers les kuffars? Vous avez entendu une seule trahison du prophète alayhi salatu wassalam? Est-ce que vous avez entendu une seule trahison, une seule injustice? Non. Deuxièmement, qui sont les plus nombreux à chaque fois? Les kuffars. Qui sont les plus armés à chaque fois? Les kuffars. Et pourtant, qui est celui qui en a marre de l'autre? Le kafir en a marre du croyant. Alors que le croyant promet au kafir, s'il adhère à l'islam, la sécurité, la réussite, la suprématie et la tranquillité. Regardez, les juifs de Médine vivent avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont un pacte de cohabitation. Ils n'ont rien à craindre. Et de eux-mêmes, ils décident de rompre le pacte, de quitter Médine, de revenir en tant qu'ennemi et de se faire tuer. Subhanallah. Alors que dans l'islam, il y a toute la justice. Et si seulement ces gens raisonnaient, ils verraient combien ils sont bas dans leurs bêtises. Mais Allah tabaraka wa ta'ala guide qui il veut et égare qui il veut. Subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi qu'Allah azza wa jalla a renforcé et raffermi les musulmans malgré le grand nombre d'ennemis, 10 000 hommes venus combattre les serviteurs d'Allah. تبارك وتعالى قال رحمه الله فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم إليه أمر المسلمين بحفر خندق يحول بين المشركين وبين المدينة وكان ذلك بإشارة سلمان الفارسي رضي الله عنه فعمل المسلمون فيه مبادرين هجوم الكفار عليهم وكانت في حفره آيات مفصلة يطول شرحها وأعلام نبوة قد تواتر خبرها فلما كمل أي كمل حفر الخندق قدم المشركون فنزلوا حول المدينة كما قال الله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم من فوقكم من الشمال من أسفل من بني قريظة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحصن بالخندق وهو في 3,000 على الصحيح من أهل المدينة وزعم ابن إسحاق أنه إنما كان في 700 وهذا غلط من غزوة أحد والله أعلم. متنا ابن كثير رحمه الله تعالى نُبَارَلَ de l'arrivée, ou de ce qui a eu lieu, pardon, juste avant l'arrivée des ennemis d'Allah tabaraka wa ta'ala, le fait d'avoir creusé la tranchée. Il dit, informé que les polythéistes marchaient sur Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur les conseils de Salman al-Farisi, c'est-à-dire celui qui vient de Faris. Faris, c'est la Perse, la Perse et l'Iran actuel, demanda aux musulmans de creuser une tranchée qui devait empêcher les idolâtres de pénétrer dans la cité. Et vous venez d'entendre que cette tranchée a été creusée au nord de Médine, entre l'est et l'ouest. Les musulmans s'empressèrent donc de creuser la tranchée avant l'attaque des mécréants. Il fallait absolument se dépêcher, car les mécréants allaient bientôt arriver. Et il fallait avoir terminé la creusée de la tranchée avant que les mécréants n'arrivent. Les savants historiens ont divergé sur le temps qu'a pris la creusée de la tranchée, avec plusieurs paroles, mais celle qui est plus proche de la vérité selon le Cheikh Abdel Razzaq, wafaqahullah, c'est que la creusée a duré 6 jours. C'est-à-dire qu'ils ont creusé ce fossé ou cette tranchée pendant 6 jours, sans cesse. Et pendant ces 6 jours, le froid était glacial et la faim était intense. À un point, ils ne trouvaient presque pas de quoi manger. Ils avaient quelque peu du reste de pain qu'ils trempaient dans une soupe qui avait presque tourné, c'est-à-dire dont le goût avait changé. Ils n'avaient que ça et il fallait faire vite. Il fallait se dépêcher. En ce qui concerne la taille de ce fossé ou de cette tranchée, certains historiens ont dit, en ce qui concerne la longueur, c'est donc ce qui va séparer l'Est et l'Ouest, qui va faire tout le nord de Médine, il y avait 5000 coudées. Une coudée étant 50 cm, ce qui fait 2500 mètres. Donc la longueur de la tranchée était de 2,5 km. En ce qui concerne la largeur, ils ont dit 9 coudées, ce qui fait 4,5 m de largeur, 2,5 km de longueur. En ce qui concerne la profondeur, la profondeur était entre 7 et 10 coudées, c'est-à-dire entre 3,5 m de profondeur et 5. Donc 3,5 m de profondeur, 2,5 km de longueur et enfin 4,5 m de largeur. Donc c'est un trou dont la taille est assez grande et considérable. Afin que quand les mécréants arrivent, ils soient étonnés et ne puissent pas s'introduire dans la ville de Médine. Les musulmans s'empressèrent donc de creuser la tranchée avant l'attaque des mécréants. Durant les travaux, se produisirent différents miracles relatés par une multitude de compagnons qu'il serait trop long de décrire ici et qui sont autant de preuves de l'authenticité de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam creusait la tranchée avec ses compagnons, beaucoup de choses se sont déroulées qui sortaient de l'ordinaire et qui montraient que cet homme, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, était bel et bien le messager d'Allah, alayhi salatu wa sallam. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, rapporte une de ces choses qui se sont déroulées pendant la creusée de ce fossé. Selon Jabir ibn Abdullah, radiyallahu anhuma, qui dit « Inna yawm al-khandaq » Nahfir. Nous étions le jour du fossé en train de creuser. Fa'aravat kudiyatun shadida. Quand est apparu un énorme rocher, ce qu'on appelle kudiya. Faja'u an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons sont donc allés voir le prophète alayhi salatu wa sallam. Faqalu hadhihi kudiya 'aravat fil khandaq. Pour lui dire, voici un immense rocher qui est apparu pendant la creusée de la tranchée. Faqala ana nazil. Le prophète leur a dit, je vais descendre. C'est-à-dire, je vais descendre le casser. Car les compagnons, malgré le grand nombre, n'ont pas réussi à déplacer ni à casser ce rocher. Thumma qama wa batnuhu ma'soubun bihajar. Puis le prophète s'est levé et on a pu voir son ventre compressé par une pierre. Le prophète avait tellement faim, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a pris une pierre, il l'a attachée dans son ventre, il a serré la pierre pour boucher le trou dans l'estomac, pour que la douleur se dissipe et qu'il ne ressente pas la faim. Subhanallah, alayhi salatu wa salam. Et nous, combien on mange et combien on boit? Allah musta'an, qu'Allah nous pardonne. Le compagnon dit: وَلَبِثْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا نَذُوقُ ذَوَاقًا. Et nous sommes restés 3 jours à ne rien goûter. Pendant 3 jours, il fait froid, ils ont faim, et c'est très dur de creuser, et en plus de ça, ils ne mangent rien. Allahu Akbar. فَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِعْوَلِ فَضَرَبَ الْكُدْيَةِ. Le prophète alayhi salatu wassalam a pris l'ustensile qui était utilisé pour creuser et il a frappé d'un coup le rocher. فَعَادَ كَثِيبًا أَهِيلًا. Et l'immense rocher s'est réduit immédiatement en poussière éparpillée. Tous les compagnons ont essayé de frapper. Ils n'ont pas réussi à bouger le rocher, ils n'ont pas réussi à le casser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris l'ustensile, a mis un coup et le rocher est parti. Vous venez de voir, le prophète n'a pas mangé. Il a tellement faim qu'il a un rocher, il a une pierre sur le ventre. Et pourtant, avec un coup, il a détruit le rocher. Et il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait la force de 30 hommes. Sallallahu alayhi wa sallam. قال فعاد كثيبا أهيل أو أهيم فقلت يا رسول الله إذن لي إلى البيت. Jabir continue et dit: ô messager d'Allah, accorde-moi la permission d'aller chez moi, de rentrer chez moi. فقلت لامرأتي, donc le prophète lui a accordé. فقلت لامرأتي رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبر. Le prophète lui a accordé l'autorisation de rentrer chez lui. Il est allé voir sa femme. Pourquoi, à votre avis, est-ce qu'il est rentré chez lui? Ce n'est pas parce qu'il était fatigué, ce n'est pas parce qu'il était apeuré, mais c'était parce que quand il a vu le rocher, ou pardon, la pierre sur le ventre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a compris que le prophète avait faim. Il s'est dit: je vais aller chez moi demander à ma femme de cuisiner pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est allé chez lui alayhi salatu wa sallam et a dit à sa femme: je viens de voir quelque chose sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam où il n'y a pas de patience devant cette chose-là. Je viens de voir une chose qui n'a pas de patience, c'est-à-dire je viens de le voir dans la difficulté, dans la faim. Fa'inda kishay, il dit à sa femme: as-tu quelque chose? قالت عندي شعير وعناق. Sa femme lui dit: j'ai du blé et une biquette, ou bien une chevrette, le bébé de la chèvre. C'est tout ce qui lui restait, un tout petit peu de viande et un peu de blé. فذبحت العناق, elle a immolé la chevrette. وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة. Puis elle a pétri le blé et elle a mis la viande dans le récipient pour cuire la viande. ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر. Puis il est allé voir le prophète صلى الله عليه وسلم quand la nourriture était sur le point d'être cuite. والبرمة بين ماذا والبرمة بين الأثافي قد كادت تنضح. Et donc quand il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la marmite était portée à ébullition, elle allait bientôt être cuite. فقلت طعم لي فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. Jabir dit, il a été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit discrètement: il y a de la nourriture pour nous. Viens avec une ou deux personnes. Donc il lui a dit discrètement, car il n'y avait pas assez de nourriture pour tout le monde. Et tout le monde était affamé. Qu'est-ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? قال كثير طيب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, c'est beaucoup et c'est bon. C'est-à-dire c'est beaucoup et c'est bon pour nous tous. Puis il dit, قَالَ قُلْ لَهَا لَا تَنْزِعِ الْبُرْمَةَ وَلَا الْخُبْزَ مِنَ التَّنُّورِ حَتَّى آتِي. Il dit à Jabir, c'est bon pour nous tous ce que ta femme a fait et a cuisiné. Dis-lui de ne pas ouvrir le récipient et de ne pas toucher jusqu'à ce que j'arrive. قَالَ فَقُومُ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé les compagnons et leur a dit, levez-vous, c'est-à-dire venez manger. Et dans une autre version, il dit aux compagnons, Jabir vous invite tous à manger chez lui. Alors qu'il y avait un peu de viande et un peu de pain. فَقَامَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنصَارِ. Les émigrés et les ansars se sont levés. Ils étaient tous affamés. فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ. Lorsqu'ils sont arrivés chez l'épouse de Jabir, radiyallahu anhu, قَالَ وَيْحَكْ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. Le prophète a dit à son épouse, malheur à toi. Jabir a dit à son épouse, malheur à toi, le prophète est venu avec les émigrés, avec les ansars, c'est-à-dire énormément de personnes. وَمَنْ مَعَهُمْ. Et même ceux qui sont avec eux. قَالَتْ هَلْ سَأَلَكْ. Regardez son épouse. Elle lui a dit, est-ce que c'est lui qui t'a demandé? Est-ce que c'est lui qui t'a demandé d'amener tout le monde? قُلْتُ نَعَمْ. Oui, a dit Jabir. فَقَالَ اُدْخُلُوا وَلَا تَضَاغَطُوا. Son épouse lui a dit, alors entrez et ne vous excitez pas ou ne soyez pas stressés. Jabir est en panique et son épouse voit presque un millier d'hommes venir manger chez elle, 1000 hommes, un peu de viande et un peu de pain. Elle dit à son mari, c'est le prophète qui t'a dit ça? Lui, il dit oui, et elle lui dit, alors rentrez et ne vous excitez pas. C'est-à-dire que si c'est le prophète qui vous a dit, vous allez tous manger, c'est sûr. Car quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quelque chose, c'est que ça vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. فَجَعَلَ يَكْسِرُ الْخُبْزُ وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ اللَّحْمُ وَيُخَمِّرُ الْبُرْمَةُ وَالتَّنُّورُ إِذَا أَخَذَ مِنْهُ. Puis le prophète alayhi salatu wassalam ouvrait le récipient, il prenait un morceau de viande, du pain, il le mélangeait, il le donnait à chaque personne et à chaque fois qu'il donnait, il fermait le récipient. Ils ont fait la queue, ils ont tous pris leur part, ils ont tous mangé, ils sont tous partis et il en restait encore dans la marmite. La ilaha illallah, subhanallah. وَيُقَرِّبُ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ ثُمَّ يَنْزِعُ. Donc il servait ses compagnons et refermait le couvercle. فَلَمْ يَزَلْ يَكْسِرِ الْخُبْزِ. Il n'a cessé de couper des morceaux de pain. وَيَغْرِفْ. Et recouvrir le couvercle. حَتَّى شَبِعُ وَبَقِيَ بَقِيَّ. Jusqu'à que tous les compagnons soient rassasiés et il y avait des restes. قَالَ كُولِي هَذَا وَأَهْدِي. Le prophète a dit à l'épouse à Jabir, mange-en et offre-en, donne-en en cadeau. فَإِنَّ النَّاسَ أَصَابَتْهُمْ مَجَاعَ. Car les gens ont été touchés par la famine. Ça c'est une des choses qui se sont passées et qui sortent de l'ordinaire au cours de cette bataille, la bataille des coalisés. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a donc cité que des choses qui sont sorties de l'ordinaire, des choses qu'il n'avait pas l'habitude de voir, se sont déroulées et qui ont montré la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, la tranchée terminée, les idolâtres arrivèrent et installèrent leur campement autour de Médine. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit, ce qui veut dire, quand ils vous vinrent d'en haut et d'en bas. Donc ici Allah azza wa jal s'adresse aux croyants après la bataille des coalisés et leur fait se remémorer ou se rappeler cette bataille. Quand les ennemis sont venus d'en haut et d'en bas. Qui me dit, qu'est-ce qu'Allah azza wa jal veut dire par en haut et en bas? Naam. En haut, c'est quand ils sont venus du nord. Donc, là où le fossé a été creusé. Et en bas? Non. Naam. Où est-ce qu'ils étaient? Naam. En bas, c'est du sud. Quand ils sont venus du côté du sud où se trouvait la tribu de Banu Qurayza. Les juifs qui ont trahi, vous allez le voir après, ils ont trahi les musulmans. Wal'iyadu billah. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans, au nombre de 3000, protégés par la tranchée et le dos tourné au mont Sal'a, et le dos tourne, donc ici d'abord il nous dit que les musulmans étaient au nombre de 3000. Les musulmans étaient au nombre de 3000. Et combien étaient les kuffars? 10 000. Subhanallah. Protégés par la tranchée et le dos tourné au mont Sal'a, se préparèrent à affronter l'ennemi. On va s'arrêter ici, inshallah ta'ala. Et on va reprendre le prochain cours. Le prochain cours demain, inshallah ta'ala, après la prière du Asr. Allahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.